Les balados de l'AQPER, l'association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement. Bonjour, bienvenue dans les balados de l'AQPER. Aujourd'hui, je suis avec Éric Richard, des Amis de la Montagne. Nous allons parler de l'éducation relative à l'environnement pour les familles durant les vacances d'été. On sait très bien que pendant l'année scolaire, on est assez sollicité par les services de garde et les écoles. Mais qu'est-ce qui se passe pendant l'été? Comment on peut faire pour maintenir toutes nos actions en famille? Alors, bonjour Éric, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Sandrine.
Je t'en prie, présente-toi, dis-nous qui tu es un peu, ce que tu fais.
Oui, je m'appelle Éric Richard, je suis conseiller scientifique aux Amis de la Montagne depuis déjà presque une trentaine d'années. Donc, j'ai travaillé en éducation à l'environnement pendant une bonne partie de ma carrière auprès des jeunes et auprès des familles. Donc, c'est un public que je connais très bien. Sur le Mont-Royal, on a développé toute une série de programmes pour rejoindre les jeunes pendant l'année scolaire, mais aussi pendant l'été avec notre camp de jour, puis aussi les week-ends et dans le parc du Mont-Royal toute l'année pour les familles. Donc, c'est vraiment un milieu qui permet une découverte de la nature, une découverte des enjeux liés à sa protection, puis qui propose aussi des façons de s'engager pour protéger la biodiversité de Montréal. Donc, les Amis de la Montagne, c'est un organisme qui a été créé dans les années 80 à l'initiative de mouvements citoyens. Un qui visait d'abord à développer un centre d'éducation à la forêt, sur la montagne. Donc, permettre aux jeunes Montréalais de découvrir la forêt via la forêt du Mont-Royal. Et ensuite, un mouvement citoyen qui s'est mobilisé pour engager la communauté montréalaise dans la protection et la mise en valeur de ce territoire unique. Et donc, depuis, les Amis de la Montagne ont grossi, on offre toute une panoplie d'activités, que ce soit dans le parc du Mont-Royal, en ligne, puis on mobilise aussi des milliers de gens pour dans des actions d'intendance environnementale sur le terrain, dans la mobilisation sur des enjeux liés à la protection du territoire du Mont-Royal, mais aussi à la protection des espaces verts sur l'île de Montréal.
C'est un organisme qui a vraiment sa place à Montréal, justement, pour l'éducation à l'environnement. Donc, du coup, vu ton expérience de comment faire, justement, pour avoir, maintenir toutes ces actions, en fait, en environnement qu'on fait pendant l'année, en sortie de plein air, en famille.
Oui, ben, je dirais d'abord, je pense qu'il faut profiter de l'été pour être dehors, pour aller se reconnecter à la nature, parce que je pense que ça, c'est un des enjeux importants sur lesquels on se penche depuis plusieurs années à la montagne, c'est le manque de connexion à la nature des jeunes, particulièrement en milieu urbain. Et puis, c'est sûr qu'un jeune, son lien à la nature, il va se développer principalement avec sa famille. C'est sûr que l'école peut jouer un rôle, les organismes de la communauté aussi, mais c'est la famille qui va donner le goût aux jeunes d'aller en nature. Et puis, l'été, c'est vraiment le moment de l'année privilégié pour le faire, que ce soit en ville ou en dehors de la ville, parce que je pense qu'on oublie, mais il y a beaucoup de nature quand même à Montréal aussi. Je pense qu'il faut créer les opportunités pour permettre aux jeunes d'entrer en contact le plus possible avec la biodiversité.
Donc, en fait, c'est ça, là, ce que tu dirais comme première action avant tout, ce serait déjà de sortir en plein air, en famille, déjà avant de penser à agir, c'est déjà avoir une première approche, on va dire, tangible de la nature, en fait.
Oui, puis les recherches ont montré que c'est le contact régulier avec la nature qui a un plus grand impact pour le développement d'un lien affectif fort chez le jeune avec la biodiversité puis le vivant naturel, si on veut. Donc, c'est important de multiplier les occasions. Puis, ça n'a pas besoin d'être une longue excursion, tu sais, je pense que ça peut être un petit moment à la fin de la journée, juste d'aller faire un pique-nique le soir dans un parc, d'aller prendre une marche le matin, d'aller prendre le temps d'aller écouter la vie qu'il y a dans la ruelle en arrière de chez soi, les oiseaux, de découvrir les petits animaux qui se cachent sous les roches. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher un grand espace de nature. La nature, elle est vraiment près de chez soi. Là, on n'a qu'à ouvrir la porte puis de sortir. Et je pense qu'il faut aussi laisser aux jeunes l'occasion de la découvrir par lui-même. Donc, ce n'est pas nécessairement que le parent organise complètement ces moments-là de contact avec la nature, mais d'offrir l'opportunité aux jeunes d'être dans la nature, puis de laisser lui-même développer son sens de l'exploration, sa créativité pour s'inventer des jeux avec des bouts de bois ou une roche qu'il a trouvée. Ça aussi, c'est un élément que les chercheurs en éducation ont pris conscience, l'importance du jeu libre, puis de laisser l'autonomie aux jeunes pour découvrir le milieu. C'est fondamental pour créer un lien fort puis avoir un impact plus important chez le jeune. Donc d'abord, je pense de créer l'opportunité d'aller dans des lieux où l'enfant peut être en contact avec cette nature-là, puis de lui laisser un espace où il peut explorer par lui-même, tout en ayant un adulte qui quand même jette un coup d'œil de loin pour s'assurer que tout se passe de façon sécuritaire. Mais donc là, jusque-là, c'est pas trop engageant. Après ça, je pense que c'est aussi intéressant en famille d'aller présenter des modèles inspirants aux jeunes et puis de profiter de l'été pour justement aller découvrir peut-être des initiatives dans son quartier, dans la région où on passe nos vacances, pardon. Donc, de s'informer peut-être sur le web, via le site de l'Acupère, par exemple, peut-être pour voir quelles sont les initiatives qui se déroulent dans telle région. Donc, d'aller découvrir, est-ce qu'il y a des fermes qu'on peut aller visiter? Est-ce qu'il y a des lieux où il y a des initiatives d'éducation à l'environnement qui sont intéressantes? Je donnerais par exemple dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, depuis quelques années, ils ont fait un partenariat avec un organisme qui amène des chèvres broutées dans les parcs de l'arrondissement. C'est une façon pour l'arrondissement de faire un contrôle biologique des pelouses. Donc, plutôt que d'avoir de la machinerie, c'est les
animaux. La tondeuse naturelle.
Qui tombent. Mais en même temps, ça offre une opportunité extraordinaire aux citadins de pouvoir entrer en contact avec ces animaux-là. Donc, là, on a vraiment un super bel exemple, à la fois d'un projet qui est vraiment dans une vision de développement durable. Puis aussi, c'est une occasion unique pour les enfants de pouvoir entrer en contact avec les animaux, d'échanger avec les gens qui s'en occupent. Je pense même qu'ils offrent l'opportunité aux gens qui viennent les voir de nourrir les animaux. Donc, ça, c'est des expériences qui vont être très marquantes pour les jeunes. Puis je pense que c'est un beau moment en famille. Je pense que l'organisme s'appelle Biquette. Sur le web, Biquette Rosemont, je pense que vous devriez tomber dessus. On peut suivre aussi leur calendrier parce qu'ils les promènent de parc en parc. Donc, on peut savoir telle semaine, ils sont dans ce parc-là, telle autre semaine, ils sont dans un autre parc.
D'accord.
Ensuite, je dirais aussi pour le jeu libre, il y a différents quartiers qui ont des initiatives aussi intéressantes. Je pense à l'arrondissement Outremont, où Outremont en famille, ils ont un triporteur qui promène dans les parcs de la ville avec toutes sortes de matériel pour justement permettre aux jeunes de jouer dans les parcs et puis de profiter de ces espaces vers là. Mais c'est vraiment adapté vers la petite enfance, donc c'est vraiment pour les 0-5 ans. Donc, si une famille ne sait pas trop quoi faire dans un parc, bien, ils peuvent aller vers des ressources comme ça. Puis, je pense qu'il en existe dans d'autres quartiers aussi. Donc, ça vaut la peine d'explorer. Est-ce qu'il y a des organismes du milieu qui offrent des activités spontanées? Maintenant, avec la COVID, peut-être qu'il faut s'inscrire d'avance. Là, pour...
Ça, d'aller voir ce qui se fait à côté de la maison, on va dire.
Oui.
D'accord. Alors,
et si je me penche plus vers le Mont-Royal, bien là, je pense que ça serait intéressant pour une activité en famille, d'impliquer les enfants dans l'organisation de l'activité. Donc, si on dit, bon, ben, samedi prochain, on va aller à la montagne, on va s'organiser, on va préparer un pique-nique, on va choisir l'endroit où on va aller, ben, d'impliquer les enfants dans le processus pour déjà leur faire comprendre comment la ville est organisée, à quel endroit on s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas comme activité, comment on peut faire pour que aussi les activités qu'on va faire soient respectueuses du milieu, donc développer déjà une conscience des impacts qu'on peut avoir sur le milieu naturel. Donc, on ne peut pas cueillir, qu'on ne peut pas aller se promener partout, on doit rester dans les sentiers. Donc, plutôt que d'y aller par l'interdit, essayez plutôt de faire comprendre le pourquoi des règlements, par exemple, d'un lieu comme le parc du Mont-Royal. Je pense que ça peut être une belle approche.
En les investissant directement dans la préparation du projet, plutôt que dire « on y va et c'est fini », genre dire comme préparer le terrain avec eux pour qu'ils se sentent comme responsables de ce qu'ils vont faire une fois la sortie en place, quand ils sont en plein air.
Oui, puis souvent, les jeunes aiment beaucoup ramasser pour faire des collections. Donc c'est là, on a la contrainte dans les parcs qu'on ne peut pas le faire partout. Parce qu'il y a des parcs où on peut se permettre peut-être de cueillir la biodiversité qui pousse dans les pelouses ou dans les champs. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. C'est rare qu'il y ait des espèces menacées dans ces habitats-là. Par contre, quand on va sur le Mont-Royal, bien, c'est sûr qu'en forêt, on ne peut pas se permettre de cueillir. Donc, à ce moment-là, peut-être proposer à l'enfant d'autres façons de...
Est-ce qu'il peut ramasser ce qui est déjà par terre au lieu de comme cueillir la plante?
Il genre pourrait ramasser par terre, mais tu vois, moi, je proposerais, par exemple, de dessiner ce qu'on voit pendant notre, notre excursion plutôt que de le ramasser. Donc, ça peut être... Bon, ben, on fait un dessin.
On prend une photo avec le téléphone.
On prend des photos. Ça peut être aussi de faire une création éphémère avec des objets qu'on a trouvés par terre, puis de les laisser sur place, puis juste prendre une photo. Mais ça...
D'accord.
Après ça aussi, je pense, dans la préparation d'un pique-nique, il y a énormément d'opportunités là. Parce que
ça,
dans le choix des aliments qu'on va apporter, on peut essayer de chercher plutôt les produits locaux. Est-ce qu'on va avoir des emballages aussi? Donc, sensibiliser le jeune à la gestion des déchets. Qu'est-ce qu'on va choisir pour apporter notre pique-nique pour notre randonnée? Donc là aussi, il y a vraiment plein d'opportunités pour mettre en pratique sûrement plein de choses qu'il a appris à l'école, mais là, de le vivre dans un contexte. Oui, puis c'est souvent même les enfants qui vont rappeler aux parents qu'il faut, faut faire le tri, il faut faire attention aux déchets qu'on produit, qu'il ne faudrait pas... faire tel geste. Je pense qu'ils ont déjà une bonne conscience éco-citoyenne. Donc, c'est plutôt de le partager en famille puis de se poser les questions ensemble. Bon, mais on va faire un pique-nique. Est-ce qu'on a fait les bons choix dans ce qu'on apporte? Donc, essayez de voir. Puis, si vous cherchez un peu boîte à lunch écologique, il y a plein de trucs aussi sur le web là-dessus pour comment faire un pique-nique qui va être éco-responsable puis réduire notre empreinte. Donc, parce que là, il y a une belle opportunité. Si jamais on va dans un parc comme c'est le cas, par exemple, au parc du Mont-Royal, où il n'y a pas nécessairement le tri partout, bien, ça peut être aussi de réfléchir, bien, d'amener peut-être des sacs pour qu'on puisse rapporter nos déchets chez nous puis faire le tri à la maison ensuite, plutôt que de tout jeter à la poubelle puis de jeter des matériaux qui auraient pu être récupérés ou compostés. Bien, c'est, on les rapporte à la maison puis on le fait de retour à la maison. Donc ça, c'est
ça peut être comme finir l'activité, c'est-à-dire qu'on peut comme... On prépare l'activité tous ensemble avant de partir. Après l'activité, on fait comme un retour sur l'activité, justement en continuant les actions qu'on n'a peut-être pas pu faire sur place, mais du coup, les finir à la maison. Donc, ce qui est vrai, comme, c'est comme si on boucle la boucle, en gros, si je comprends bien.
Ouais.
Est-ce que tu aurais des trucs pour genre comment garder cette motivation? Parce que je pense, les vacances d'été, souvent, on se dit, bon, bah, on souffle un peu, on lâche un peu du lest sur toutes les choses où on est assez rigide pendant l'année parce que justement, on est pris avec la préparation des boîtes à lunch, l'emploi du temps, le travail. Enfin, on est comme réglé comme des montres un peu pendant l'année. Et pendant les vacances d'été, on dit oh, c'est bon, on laisse faire, c'est des vacances, on est tranquille. Donc, comment essayer de garder cette motivation pour maintenir ces gestes pour l'environnement? On aura envie de lâcher un peu là-dessus aussi, on se dit, oh, c'est des vacances, mais l'environnement, il ne part pas en vacances, puis la pollution ne part pas en vacances non plus. Donc...
Oui, ben, je pense qu'on peut s'aider, il y a des outils, tu sais, il y a des listes, préparer des listes d'avance pour ne pas justement improviser trop au moment du départ. Donc, si on planifie une sortie, de se donner le temps, tu sais, de dire, bon, ben, si je la planifie vendredi, ben, 2-3 jours avant, je commence à préparer ma sortie, à voir qu'est-ce que je vais apporter, à voir où je m'en vais, m'informer des règlements. Ça réduit beaucoup le stress pour les parents, plutôt que d'arriver le matin puis de ne pas savoir où on s'en va puis qu'on n'est pas organisé. Je pense que déjà, ça peut être une bonne façon de le vivre plus facilement. On peut aussi opter vers des activités qui sont un peu plus encadrées où on est pris en charge. Donc, voir est-ce que dans le parc où on s'en va, est-ce qu'il y a des activités familiales de proposer. Je pense qu'il y a de plus en plus d'organismes à Montréal qui offrent des activités, qu'elles soient gratuites ou à faible coût pour les familles. Puis là, ben, on a juste à se présenter, puis on passe une belle journée en famille. Puis en plus, on a la chance souvent de rencontrer d'autres familles quand on prend. Ça, je pense que ça peut être aussi une option qui est moins exigeante pour les parents en termes d'organisation.
Comme tu dis, ça permet d'avoir aussi des professionnels qui peuvent aider, apporter des outils et faire découvrir peut-être plus de choses que si on était juste en autonomie, en fait.
Oui, puis tu vois, nous, l'année dernière, comme on n'avait pas la possibilité d'accompagner les familles sur le terrain, on a créé un petit guide. Donc, c'est un document que vous pouvez télécharger sur notre site Internet qui vous propose 2 ou 3 circuits dans le parc du Mont-Royal avec toute une série d'activités à faire avec vos enfants. Donc, c'est vraiment déjà comme une excursion clé en main. Là, vous n'avez pas l'éducateur des amis de la montagne, mais c'est comme si on vous accompagnait à distance. Une activité que je ferais aussi, moi, je pense, avec les enfants, qui est vraiment intéressante, c'est de faire du jardinage. Donc, acheter des graines, que ce soit n'importe quoi. Là, prenez une plante qui qui pousse assez vite, comme de la laitue ou des fines herbes qui ont, pas un, qui ont une croissance assez rapide. Puis, tu sais, de les semer, puis de les regarder pousser, les arroser, s'en occuper, puis après ça, les manger. Je pense que ça, c'est une super expérience à faire vivre aux enfants aussi. Puis, on n'a pas besoin d'un grand jardin. Ça pourrait être juste dans un pot sur le balcon. Puis,
c'est accessible à tout le monde, en fait.
Oui, je pense que ça, c'est une belle opportunité pendant l'été. Puis c'est un projet qui peut durer tout l'été avec les
enfants.
Donc, qui
peut pas mal les occuper, parce que des fois, c'est ça aussi, c'est comment occuper les enfants pendant l'été, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Mais comme on peut, comme tu penses à ton idée de jardinage, on peut leur faire faire une petite fiche où ils suivent l'évolution de leurs plantes, tu vois, genre peut-être mesurer en centimètres, combien de fois ils ont arrosé, regarder la température, le noter sur la feuille, faire comme un calendrier de l'évolution de la plante et de son environnement. Donc, ça peut être... peut-être une façon de genre d'appréhender pour eux l'environnement de à la maison, du coup, si on ne peut pas sortir. Du coup.
Ouais. Moi, je sais qu'enfant, une de mes activités préférées l'été, c'était de faire des vivariums. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut être très intéressant comme projet en famille de longue durée. Là. Puis on peut trouver des animaux qui ne sont pas trop gros, qui ne demandent pas trop. Puis faire des choix aussi, on ne veut pas aller prendre des animaux dans la nature qui sont menacés. Donc,
c'est sûr.
On n'ira pas chercher des amphibiens, là, parce que beaucoup d'espèces d'amphibiens sont assez fragiles, puis les populations aussi sont menacées. Mais plein d'insectes qui sont vraiment intéressants, puis qui ne sont pas dangereux, que ce soit un scarabée, un ver de terre, même des fourmis, avoir une fourmilière.
Bien mettre un couvercle pour éviter l'invasion de fourmis dans la maison.
Oui, ça, par contre, il faut faire attention. Mais ça, c'est une opportunité de jeu puis d'expérimentation pour l'enfant qui peut l'occuper pendant des heures sur une longue période. Ça permet vraiment de développer cette connexion-là à la nature. Donc.
Justement, comment tu peux impliquer toute la famille à l'échelle de chacun? Parce que tu ne peux pas faire les mêmes choses avec un enfant de 3 ans qu'avec un ado de 15 ans. Donc, est-ce que ça peut être une chose comme de donner des tâches spécifiques à chaque tâche ou est-ce que comment faire pour impliquer tout le monde?
Oui, puis je pense que ça peut être une façon aussi d'aller justement impliquer plus les ados en leur demandant peut-être de créer une activité pour les plus jeunes.
Ça, parce que souvent les ados, on a plus de difficultés à les motiver sur quelque chose.
Oui, puis je pense qu'il y a moyen de trouver, si on va dans un parc, justement, ben, t'sais, on peut peut-être s'organiser à y aller à 2-3 familles pour que justement les enfants aient des amis avec qui aller jouer. Puis là, ça peut être un moment vraiment convivial, t'sais, de permettre aux parents d'échanger entre eux, mais en même temps de profiter d'un cadre naturel. Les enfants, d'avoir un espace pas trop loin où ils peuvent aller jouer de façon autonome un peu entre eux. Les plus vieux, peut-être aller explorer un petit peu plus loin dans le parc. Ça fait que je pense qu'il faut se donner de l'espace puis laisser de l'autonomie à tout le monde durant l'activité. Je pense qu'il y a des moments où on peut être tous ensemble, d'autres moments où justement on peut se permettre aux enfants d'être ensemble, aux adultes d'être ensemble puis d'échanger. Oui, puis je pense ralentir tout simplement, prendre le temps de vraiment pas être à la course, d'essayer de se faire des journées hyper chargées puis qu'on visite 4 affaires dans la même journée. Je pense que c'est vraiment prendre le temps de se poser puis quand on va visiter un lieu, d'être là un certain nombre de temps. Premièrement, c'est bon pour nous, ça va nous aider à relaxer. Puis ça nous permet de vraiment établir une connexion plus profonde avec le lieu, de prendre le temps d'écouter ce qu'il y a autour, de prendre le temps de sentir les odeurs, de s'imprégner du lieu. Parce que souvent, on va essayer de faire des programmes trop chargés, puis on court d'une place à l'autre. Et c'est
au mieux. Ça, c'est comme l'habitude de l'année où on était tellement millimétré avec un emploi du temps qu'on aurait tendance à vouloir faire la même chose pendant les vacances. Avoir un minimum d'organisation, comme tu dis, de ne pas être à la course et en panique le moment où on veut faire notre sortie de familiale. Peut-être se donner juste une mission pédagogique pour la journée, genre aujourd'hui, on va à la sortie. Bon, bah, pour cette sortie, on décide de trier nos déchets. Parce que c'est sûr, on ne peut pas tout faire. Il faut aussi être réaliste. On n'a pas tous la même implication pour l'environnement, puis les mêmes possibilités. Donc, du coup, peut-être se choisir une seule mission par sortie, mais que tout le monde y participe et que ce soit celle qui va être maintenue plutôt que d'essayer de faire trop de choses, puis qu'au final, elles soient mal faites ou mal comprises. Parce que ça aussi, si on fait trop de choses, les enfants peuvent mal intégrer ce qu'on a voulu leur enseigner. Donc, on va dire de trouver le mix entre organisation et détente afin que tout le monde y trouve son compte.
Puis toi, dans les activités familiales qu'on organise à la montagne, on s'est rendu compte que souvent, le moment de la collation ou le moment du pique-nique, c'est le moment qui est le plus apprécié par les familles. Puis c'est vraiment un ajout important à l'activité. T'sais, on va leur proposer une randonnée d'1h30, 2h. Puis après ça, d'inviter les familles à rester sur le site pour faire un pique-nique. Bien, c'est souvent ce moment-là qui est le plus précieux. Donc ça, c'est quelque chose de simple, mais je me dis, il faut quand même prendre le temps d'y penser. Si on va visiter un musée, si on va dans un parc vivre une activité, mais pourquoi pas s'amener une collation pour prendre le temps de rester sur le site un peu après l'activité plutôt que de revenir directement à la maison?
Éric, je pense que tu nous as donné pas mal de petites solutions, okay. De petites pistes, d'outils pédagogiques pour nos sorties familiales. Mm-hmm. Puis toi, tu travailles du coup aux Amis de la Montagne au Mont-Royal. Qu'est-ce que vous faites en ce moment même que les gens pourraient faire, les familles pourraient faire pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août? Qu'est-ce qui est disponible au Mont-Royal pour les familles justement en ce moment?
Peut-être je parlerai de notre campagne d'éco-responsabilité qu'on va lancer dans les prochaines semaines. La Ville de Montréal aussi en fait une de son côté pour les parcs, parce que les parcs ont été beaucoup utilisés pendant la pandémie, avec beaucoup de monde qui s'y rassemblait. Donc, ça a eu un impact important sur nos milieux naturels. Donc, on veut leur donner la chance là, de récupérer un petit peu cet été. Puis, on invite les gens à être un peu plus attentifs à l'impact qu'ils ont sur le milieu. Donc, je pense que ça peut être intéressant de prendre peut-être du temps en famille avant une sortie pour bien réfléchir à, justement, notre impact sur les milieux. Est-ce que les activités qu'on va faire sont permises? À quel endroit je peux aller? Donc, s'informer de la réglementation, mais aussi comprendre pourquoi elle est en place, puis prendre le temps en famille de se l'expliquer, d'obtenir l'adhésion de tout le monde de la famille face à ces choix-là puis à ces comportements-là qui sont souhaités. Puis en même temps, je pense que si tout le monde fait un petit geste, ben, tu sais, c'est là qu'on a un gros impact. Là. Puis je pense que c'est intéressant peut-être aller explorer les principes sans trace. Il y a plusieurs sites Internet maintenant en français qui les présentent, autant pour un public adulte que pour des enfants. Donc, aller explorer un peu plus cette approche-là. Puis juste être conscient qu'on partage ça avec beaucoup de monde. Donc, si on va dans nos parcs cet été, ben, se dire on est des milliers à venir. Fait que tout d'un coup, on va se dire, ah, c'est pas grave si je casse une petite branche ou si je sors du sentier, mais il faut se dire qu'il y a peut-être des milliers d'autres qui vont le faire. Puis je pense que ça commence par l'éducation des plus jeunes aussi, quand on est en famille, de donner l'exemple, puis d'expliquer aux enfants pourquoi on ne peut pas le faire à cet endroit-là. Mais de proposer justement autre chose pour pas qu'on soit juste dans des restrictions, mais qu'on ait aussi la possibilité là, de se sentir libre, puis de pouvoir explorer. Donc c'est plutôt d'être au courant de la réglementation, de choisir les bons endroits pour nos activités. Puis si vous allez télécharger le petit cahier qu'on a prévu pour les familles, justement, on présente un peu aussi cette approche-là en introduction du cahier pour justement dire aux familles, ben, si vous voulez faire une activité où les enfants peuvent explorer plus librement, ben, optez plus pour les aires de pique-nique. N'allez pas près d'un milieu trop fragile comme un marécage ou un endroit où il y a des plantes rares. Donc, d'être au courant d'un peu des secteurs du parc où on va, puis de savoir, ben, il y a des zones souvent d'aires de pique-nique ou d'accueil, où justement, là, on peut se permettre des activités un peu plus libres, bouger un peu plus. Et puis, il y a d'autres secteurs où on doit être plus dans la contemplation, puis peut-être juste ouvrir nos sens. Donc, profiter de ce que chaque secteur peut offrir, des expériences différentes, mais le faire dans le respect du milieu naturel.
Donc, ce petit guide, du coup, on peut le télécharger sur le site des Amis de la Montagne,
oui,
c'est ça?
Oui, voilà, lemontroyal.qc.ca.
En tout cas, Éric, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette entrevue.
Merci.
Merci beaucoup, Éric. Vous souhaitez en savoir plus sur notre organisme, sur le projet L'Air des Vacances? Suivez-nous sur notre site web ou sur notre page Facebook.